Bonjour à tous. Face à la multiplication des fusillades liées au trafic de drogue, Bruxelles renforce son dispositif de sécurité. À partir du 1er septembre, les signes religieux, philosophiques ou politiques visibles comme la kippa seront interdits dans 9 écoles de Flandre.
Israël menace le Royaume-Uni d'exclusion du dispositif international pour Gaza après ses critiques. La stratégie américaine de pression maximale contre l'Iran pourrait produire l'effet inverse de celui recherché, affirment des experts américains. Et face à la multiplication des fusillades liées au trafic de drogue, Bruxelles renforce son dispositif de sécurité.
Le Conseil régional de sécurité convoqué hier soir par Boris Dilies a annoncé une série de mesures pour s'attaquer aux violences liées à la drogue en région Bruxelles-Capitale. Bernard Quintin, Annelies Verlinden, Julien Moinil, la commissaire nationale aux drogues ainsi que plusieurs bourgmestres et représentants des zones de police bruxelloise participaient à cette réunion importante. Le Conseil a décidé de déployer 40 policiers supplémentaires et d'installer 20 caméras mobiles dans les quartiers les plus exposés. Philippe Close, par ailleurs, au nom de la conférence des bourgmestres, a acté l'octroi de renforts venus d'autres zones de police locales pour épauler la zone midi Anderlecht-Forêt-Saint-Gilles. L'objectif est d'intensifier la présence nocturne et en journée dans les points chauds, tout en offrant aux enquêteurs l'oxygène nécessaire pour démanteler les filières criminelles. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, réclame de son côté davantage de militaires dans les gares et les stations de métro, ainsi que l'enregistrement obligatoire des trottinettes et des deux-roues pour mieux suivre leur utilisation dans le trafic de drogue. Enfin, les bourgmestres pourraient même envisager des couvre-feux ou des zones réservées aux habitants. Sur le plan opérationnel, les brigades anti-gang et canines ont été placées sous un commandement unique. Le futur commissaire régional aux drogues attendu en septembre prendra lui aussi toute sa place dans ce nouveau dispositif transversal. L'objectif affiché est de renforcer la présence sur le terrain, mais aussi de mieux coordonner la police, la justice et les autorités locales dans la lutte contre les réseaux de stupéfiants. Boris Dilies a déclaré « La lutte contre le trafic de drogue ne peut pas être menée en silo, c'est la coordination permanente qui nous permettra d'obtenir des résultats durables. »
Et le gouvernement bruxellois aimerait aussi renforcer la présence de drones dans la capitale pour lutter contre la criminalité.
Des discussions autour de ce projet sont en cours entre le gouvernement et Safe Bruxelles, l'organisme chargé de la coordination des politiques de sécurité et de prévention. Boris Dilies aimerait une mise en place des drones fin 2027. Ces appareils seraient localisés au niveau des commissariats dans les quartiers et les communes les plus sensibles. Il ajoute que ces dispositifs devraient permettre de pister des individus en fuite ou de réaliser certains devoirs d'enquête. Objectif affiché, pouvoir couvrir tout point au sein de la région en moins de 4 minutes. Ce déploiement de drones suscite toutefois de nombreuses questions et critiques en matière de protection des libertés individuelles et de la vie privée.
Et à partir du 1er septembre, les signes religieux, philosophiques ou politiques visibles seront interdits dans 9 écoles de Flandre.
La mesure concerne notamment les voiles, les kippas, les croix et les insignes politiques. Elle vise les élèves pendant les activités scolaires, tandis que le personnel est déjà soumis à un règlement de neutralité. Le dossier a provoqué de fortes tensions politiques. Un premier texte avait été adopté en avril 2025 grâce aux voix du Vlaams Belang, avant d'être annulé par la ministre pour vice de procédure. La nouvelle version qui entrera effectivement en vigueur a ensuite été approuvée en décembre 2025 par les trois partis de la majorité provinciale, la NVA, le CDNV et Voirut. Des élèves et plusieurs associations ont tenté de suspendre cette décision, mais leur demande a été rejetée en mai par le Conseil d'État, qui ne s'est toutefois pas prononcé sur le fond du dossier. On vous pose comme question du jour pour demain, soutenez-vous l'interdiction de tous les signes religieux dans les écoles?
Et Israël menace le Royaume-Uni d'exclusion du dispositif international pour Gaza après ses critiques.
Jérusalem envisage d'exclure plusieurs délégations européennes du centre international chargé du dossier de Gaza en réponse aux mesures et prises de position de leur gouvernement contre Israël, notamment face à leur opposition au développement de la zone E1 en Judée-Samarie ou du commerce en provenance des territoires. Selon le Financial Times, cette mesure discutée depuis plusieurs semaines pourrait également viser l'Allemagne et l'Italie. Le centre de Kiryat Gat rassemble des représentants militaires et diplomatiques d'une cinquantaine de pays et d'organisations. Il supervise notamment le cessez-le-feu, l'aide humanitaire et les projets concernant l'avenir de Gaza. Israël en a déjà exclu l'Espagne en avril dernier, puis les Pays-Bas cette semaine, après la décision néerlandaise d'interdire le commerce de produits provenant de Judée, Samarie, Jérusalem, Est et du Golan. Aucune décision n'a encore été prise concernant les Britanniques, les Allemands ou les Italiens. Une éventuelle exclusion pourrait aussi nécessiter une coordination avec Washington, puisque le centre de Kiryat Gat est dirigé par les États-Unis. Et dans ce contexte tendu, le coordinateur en chef du Conseil de la paix, Nikolaï Mladenov, dénonce les frappes israéliennes sur la bande de Gaza.
Les frappes qui, selon Nikolaï Mladenov, violent le plan de désarmement du Hamas adopté il y a de cela quelques semaines. Ces opérations de Tsahal visent aussi des civils palestiniens, ajoute le coordinateur en chef du Conseil de la paix. Chaque recours à la force qui ne répond pas à une menace immédiate et chaque incident pour lequel le mécanisme de déconfliction n'a pas été sollicité coûte au processus quelque chose de très très difficile à récupérer, ajoute-t-il. Une autre frappe sur un dépôt de munitions empêchera-t-elle le Hamas de se réarmer ou de renforcer son emprise sur Gaza, s'interroge le diplomate bulgare qui indique que Gaza n'a pas les moyens de subir une nouvelle catastrophe si le cessez-le-feu s'effondre et que la bande de Gaza sombre dans une nouvelle escalade de violence. Il n'y aura aucun moyen de s'en sortir. Fin de citation. Et à Gaza, toujours, aucune avancée majeure ne se profile à l'horizon.
Le Hamas recule sur son engagement. Il refuse désormais que ses armes quittent Gaza, tandis qu'Israël exige leur remise complète à un organisme international fiable. Les médiateurs cherchent un compromis, neutralisation ou destruction des armes. Le président libanais Joseph Aoun justifie la tenue des négociations avec Israël pour libérer le sud Liban.
Le président libanais Joseph Aoun qui a affirmé que son pays menait une guerre contre certains acteurs qui refusent l'idée même de l'État et de son autorité, tout en défendant le choix des négociations pour éviter de nouvelles destructions. Il y a des obstacles et des difficultés, mais cela reste préférable à la guerre, a-t-il déclaré, estimant qu'il n'existait pas d'autre choix que de négocier afin de libérer, je cite, le sud du pays et de permettre le déploiement de l'armée libanaise jusqu'à la frontière. Joseph Aoun a également souligné que la guerre avait gravement freiné les réformes économiques et financières engagées par le gouvernement. En outre, un haut responsable israélien en poste à Washington a confirmé à la rédaction de Radio Judaïka Bruxelles la reprise des discussions entre les deux pays pour le mois de septembre prochain. Les négociations reprendront après Rosh Hashanah, affirme cette source. La stratégie américaine de pression maximale contre l'Iran pourrait produire l'effet inverse de celui recherché.
Dans Foreign Affairs, Nate Swanson, ancien directeur chargé de l'Iran au Conseil de sécurité nationale américain, estime que les sanctions et les frappes ont certes affaibli les capacités militaires de Téhéran, mais sans contraindre le régime à céder, l'Iran a même démontré qu'il pouvait riposter et continuer de perturber l'économie mondiale et la navigation dans le détroit d'Hormuz. Même constat pour Trita Parsi du Kunsti Institute. Selon lui, les dirigeants iraniens ne capituleront pas sous la pression. Ils choisiront plutôt l'escalade. Enfin, l'Iran et ses alliés restent capables de viser avec des missiles et des drones les navires, les ports, les raffineries ou les oléoducs du Golfe et de la Mer Rouge. Pour ces experts, pour vaincre l'Iran, Washington doit élaborer une stratégie plus large que la seule coercition militaire et économique.
Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohamed Al-Thani, se rendra jeudi à Téhéran pour rencontrer de hauts responsables iraniens.
Selon le porte-parole de la diplomatie qatari, les discussions porteront sur les moyens de créer une reprise du dialogue. Doha, qui poursuit ses efforts de médiation entre Washington et Téhéran, fait également de la situation dans le détroit d'Hormuz une priorité. Le Qatar réclame le rétablissement de la liberté de navigation et un retour à la situation d'avant la crise. La visite intervient alors que le Premier ministre qatari s'est entretenu cette semaine avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, au sujet des discussions sur un corridor maritime temporaire dans le détroit d'Hormuz. Les États-Unis inscrivent le groupe britannique Palestine Action dans leur liste des organisations terroristes mondiales.
Et cette décision qui s'accompagne notamment du gel de ses éventuels avoirs relevant de la juridiction américaine et l'interdit aux ressortissants et entreprises des États-Unis d'effectuer des transactions avec ce mouvement. Palestine Action avait déjà été interdit au Royaume-Uni en 2025 au titre de la législation antiterroriste. Le groupe s'est notamment fait connaître par des actions visant des entreprises de défense liées à Israël, en particulier des sites d'Elbit System, ainsi que par des intrusions dans des installations militaires britanniques. Atlantique. Le Trésor américain accuse Palestine Action d'avoir mené depuis 2020 des actions violentes et destructrices, je cite, d'avoir blessé des membres des forces de l'ordre et d'avoir encouragé l'utilisation de méthodes similaires à l'étranger. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a présenté cette décision comme une nouvelle étape, je cite, dans la lutte de l'administration Trump contre ce qu'elle qualifie de terrorisme d'extrême gauche. La Russie pourrait durcir encore son offensive contre l'Ukraine et envisager une escalade prochainement.
Le Kremlin estimerait que les négociations de paix sont dans l'impasse. Ni les sanctions occidentales, ni les attaques ukrainiennes contre des sites russes ne suffisent à contraindre Vladimir Poutine à faire des concessions. Moscou pourrait donc choisir l'escalade militaire pour accentuer la pression sur Kiev. On savait déjà qu'une mobilisation importante au sein de la population russe allait peut-être être lancée ces prochains mois. Mais l'agence de presse Bloomberg, citée par HLN, rapporte d'autres éléments inquiétants. Selon Bloomberg, Moscou envisage des frappes de missiles balistiques puissants contre Kiev, y compris dans le centre de la capitale, ainsi que contre des infrastructures stratégiques ailleurs dans le pays. Ces informations n'ont pas été confirmées officiellement par Moscou, mais hier, Reuters a signalé de nouvelles attaques russes et une alerte aux missiles balistiques à Kiev.
Une violente coulée de boue survenue mercredi matin au Népal, de l'autre côté de la frontière du Tibet, a tué au moins 168 personnes et potentiellement nettement plus.
157 corps ont été retrouvés. Les autorités népalaises font état de 826 personnes disparues, dont plus de 300 touristes au Tibet placés sous contrôle chinois. 558 personnes restent introuvables, dont 260 ressortissants étrangers, d'après la télévision publique chinoise. Au moins 168 décès ont déjà été confirmés, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. Les secours sont encore à pied d'œuvre. L'armée népalaise a déployé d'importants moyens, dont des hélicoptères. La Chine également, un Israélien et trois Belges sont parmi les personnes portées disparues dans ces terribles inondations au Népal.
Oui, environ 70 Belges sont enregistrés comme présents au Népal auprès du ministère des Affaires étrangères. Au moins 15 compatriotes se trouvaient dans les régions sinistrées au moment des intempéries, selon les informations dont dispose le SPF. Trois de ces 15 personnes n'ont pas pu être contactées. Nous prenons les mesures nécessaires et nous sommes en liaison avec leurs proches, a assuré le porte-parole. Et en Israël, selon plusieurs médias, l'homme serait âgé entre 50 et 60 ans. Il est porté disparu. Il voyageait dans la région en compagnie d'un groupe de touristes étrangers dont on serait toujours sans nouvelles. Le ministère israélien des Affaires étrangères refuse pour le moment de confirmer cette information, mais encourage les Israéliens présents dans la zone sinistrée d'éviter ce secteur. Cela s'annonce comme la plus grande catastrophe de l'histoire du Népal, au moins en matière de destruction, a déclaré le rabbin Chesky Lifshitz, émissaire Chabad à Katmandou. On parle de milliers de mort, mais il faudra du temps avant de connaître le véritable bilan. Toute la région est coupée des communications, a-t-il déclaré. La Chine et l'Égypte renforcent leur coopération militaire.
Les deux pays organisent actuellement la deuxième édition d'un exercice aérien baptisé Eagles of Civilization. Pour la première fois, des chasseurs chinois J-16 affrontent lors de combats simulés les Rafales et les MiG-29 de l'armée égyptienne. Les manœuvres comprennent des duels aériens, des opérations de supériorité aérienne et des missions de recherche et de sauvetage. Pour rejoindre l'Égypte, les appareils chinois ont parcouru 6000 km avec des ravitaillements en vol. Une démonstration de la capacité croissante de Pékin à déployer ses force loin de ses frontières. Ce rapprochement sera également confirmé sur le terrain diplomatique. Xi Jinping se rendra en Égypte au début du mois de septembre pour rencontrer le président Abdel Fattah al-Sisi. Cette coopération est suivie avec attention en Israël, notamment en raison de la possibilité que le Caire se tourne à l'avenir vers des avions, des radars ou des missiles chinois. Un mot de politique israélienne à présent, des logiciels espions ont été découverts dans les téléphones portables de plusieurs hauts responsables du parti Yachar de Gadi Eisenkot.
Et en raison de la nature sensible des informations échangées entre les différents responsables du parti, le QG de campagne de Gadi Eisenkot a mis en place ces dernières semaines un protocole de sécurité strict comprenant des contrôles quotidiens de cybersécurité, des analyses téléphoniques, des appareils appartenant à certains membres du personnel de campagne, y compris ses plus hauts responsables. Le logiciel malveillant a été découvert à deux reprises lors de ces analyses qui ont été effectuées par une société de sécurité privée engagée par le parti, selon le rapport. Les téléphones portables de l'ex-chef d'état-major de Tsahal n'ont pas été touchés. Aucune plainte n'a été déposée auprès des forces de l'ordre.
Et Gadi Eisenkot défrait aussi la chronique pour son échange musclé avec Ofer Winter.
Je pense qu'Ofer Winter est un bon commandant sur le terrain. Il ne faisait pas partie du commandement stratégique de Tsahal et n'a jamais occupé de poste à responsabilité, a déclaré Gadi Eisenkot au sujet du responsable du parti Peuple d'Israël, qui lui a répondu dans une vidéo « J'ai déjà dit que je n'avais aucune intention de faire partie de votre gouvernement et je ferai tout pour que cela n'arrive pas. Pendant des années, je me suis opposé à la conception sécuritaire que vous avez défendue », a déclaré l'ancien chef de l'unité Givati, arguant qu'un fossé stratégique et perceptuel le séparait de Gadi Eisenkot. 48 heures après son lancement, le parti d'Ofer Winter, qui compte en ses rangs notamment l'ali doré Youssef Radad, est déjà crédité de 8 sièges, selon un sondage d'Iret Pulse pour la chaîne en hébreu D24 News. La compagnie américaine Delta Airlines reprendra ses vols vers Tel Aviv le 6 septembre prochain. United Airlines a annoncé reprendre ses vols directs entre New York et Tel Aviv le 8 septembre prochain. De son côté, American Airlines a suspendu cette liaison jusqu'au 27 mars 2027. Ahmed Al-Shara a effectué le premier paiement international par carte Visa en Syrie depuis plus de 15 ans. Une opération hautement symbolique pour un pays qui cherche à sortir de son isolement.
Cette première transaction internationale depuis plus de 15 ans doit ouvrir progressivement la voie à l'utilisation des cartes étrangères dans le pays, notamment par les visiteurs, et faciliter la reprise des relations entre les banques syriennes et les établissements internationaux. L'opération intervient quelques jours après le retrait officiel de la Syrie de la liste américaine des États soutenant le terrorisme, levant un obstacle majeur à l'arrivée d'investissements étrangers et à la reconstruction du pays. Pour Damas, ce paiement doit incarner le passage d'une économie isolée et dominée par les espèces à un système financier plus moderne et connecté au reste du monde. Et enfin, la météo. Avant la météo, Israël s'attend à de la pluie dans les prochains jours, Jonathan.
Oui, au mois d'août, vous avez bien entendu, les services météorologiques du pays ont émis un avertissement concernant des pluies extrêmement inhabituelles et sans précédent attendues en cette fin de semaine et qui seraient susceptibles de provoquer des inondations et d'importantes perturbations. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, indique l'IMS, les plus fortes étant attendues le long de la côte nord, dans la région du Sharon et dans la zone métropolitaine de Tel Aviv, dans le centre du pays plutôt. Des orages, des éclairs et même de la grêle sont attendus, précise l'Institut météorologique. Des inondations et des perturbations sont à craindre dans les villes côtières en raison de l'intensité des précipitations, notamment dans la région de Tel Aviv et les villes de la Shfela, ajoute le communiqué de l'IMS. Prudence donc.